Théologie mystique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 23 janvier 85.
Nous allons continuer d'entrer dans ce chapitre 14e qui est le commencement, comme nous allons le voir, de ce très grand enseignement de Jésus sur le paraclet. Toute la théologie de l'Esprit, sur l'Esprit Saint, repose sur ces chapitres 14, 15 et 16. Alors voyez combien c'est actuel, combien nous avons besoin aujourd'hui d'un renouveau de toute la théologie du paraclet. Alors, c'est important de le saisir à l'intérieur même de tout ce contexte que nous donne Saint Jean, où Jésus, après l'institution de l'Eucharistie, donne le nouveau commandement sous cette forme très particulière. Et nous voyons un peu la panique chez les apôtres, il y a de quoi du reste, hein. Ils sentent qu'il y a quelque chose de très grave, qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Hein. Simon Pierre, Seigneur, où t'en vas-tu ? Là, c'est vraiment l'angoisse de Simon Pierre qui sent. Il a été tellement saisi par ce que Jésus a dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller, que le nouveau précepte, il n'a pas pu le saisir. Ça, c'est tellement humain. Quand on est très pris par quelque chose qui nous angoisse, on est incapable de recevoir autre chose. On ne peut plus. Et Jésus se sert de cette angoisse de Pierre qui, à la fois, lui fait dire des choses qui dépassent, si vous voulez, le point de vue de la prudence, où on voit la générosité. Ça se touche, hein. L'angoisse, quand on est très angoissé, on peut faire des actes d'une générosité imprudente, pleine de velléité. Pourquoi, Seigneur, ne puis-je te suivre à présent ? Je livrerai ma vie pour toi. Jésus répond : tu livreras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. C'est en même temps toute la souffrance de Jésus qui se livre par là. C'est un très grand amour de Jésus pour Pierre de lui montrer qu'au-delà de cette proclamation de générosité, il y a une très grande fragilité. Tu me renieras trois fois. Pour quelqu'un de généreux comme Pierre, c'est ce qu'il y a de plus dur à entendre. C'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. La générosité, elle enveloppe tout. Il y a un aspect passionnel dans la générosité. Et montrer qu'il y a des failles, tu me renieras trois fois. Et c'est dans l'amour que Jésus dit ça. J'allais presque dire, vous voyez, c'est dans l'émotion d'un amour qui ne peut pas être présent devant la fragilité de quelqu'un. Quand on aime beaucoup quelqu'un et qu'on sait qu'il est dans un état de fragilité, on veut être présent pour l'empêcher de faire des bêtises. Et que c'est Jésus lui-même qui en fonction de sa séparation, va mettre Pierre dans une fragilité encore plus grande. C'est le départ imminent de Jésus qui fait que Pierre, et la séparation, qui fait que Pierre va connaître la trahison. Et Jésus l'annonce pour le fortifier, pour l'aider. Mais c'est rude. Tu me renieras trois fois. Alors immédiatement après, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et que quand je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, de nouveau je viens. Et je vous prendrai auprès de moi pour que là où je suis, moi, vous aussi vous soyez. Ça, c'est l'amour de Jésus pour ses 12. Pour ses 11, un amour très lucide dans la sagesse d'amour, dans la sagesse divine, la diversité des places, des lieux préparés par Jésus. C'est un langage symbolique, c'est évident, hein, parce que il n'y a pas de place dans la vision béatifique, il n'y a pas de lieu, c'est la vision béatifique fait de nous des êtres entièrement divinisé et donc d'une certaine manière complètement perdu en Dieu. Et en Dieu, il est absolument indivisible et absolument simple, il ne peut pas y avoir de place. Mais c'est pour exprimer l'intention particulière de l'amour sur chacun. Dieu n'aime pas d'une façon universelle, du reste. L'amour n'est jamais universel. Hein. On ne peut pas aimer tous les hommes. On n'aime que chaque homme en particulier, sans mettre de limites. Et Dieu ne met pas de limites. Alors c'est pour exprimer ce caractère particulier de l'amour de Jésus sur chacun. Il les aime tous d'un amour unique. Et pour aller où moi je m'en vais, vous savez le chemin. Alors Thomas va se précipiter là-dessus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu t'en vas, comment saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Alors je vous ai montré comment, d'une certaine manière, cette affirmation de Jésus reprenait toutes les autres affirmations et montrait ce lien particulier où Jésus est à la fois la voie, la vérité et la vie. On ne peut dire ça que de Jésus. Ça définit admirablement le mystère de l'incarnation, uni au mystère de la rédemption. Jésus seul peut dire qu'il est la voie, il est l'agneau. Donc il trace le chemin. Et il nous montre le chemin. Nous n'avons qu'à le suivre. Et il est la vérité, parce que chaque fois que je touche Jésus, j'atteins le terme. Et il est la vie, source de tout amour. Personne ne vient vers le Père que par moi. De nouveau, Jésus montre que tout son rôle, hein, il est venu pour cela. Toute sa fonction, c'est d'être le médiateur. C'est d'être celui qui introduit auprès du Père. Et on ne peut aller de nous-mêmes vers le Père, on n'y va que par Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, depuis si longtemps je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis, c'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres mêmes. Philippe exprime le désir de son cœur. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Cette demande blesse le cœur de Jésus. Jésus est blessé par son apôtre. Comme si tout son enseignement n'avait pas été compris. C'est pas seulement Philippe, hein, c'est tous les autres. Ils parlent au nom des autres, comme Thomas, comme Pierre. Ils sont très liés, hein, surtout en face du départ imminent. Il n'y a rien de tel qui unit davantage. Hein, quand on sait qu'on va porter ensemble une grande souffrance. Alors on est unis d'une façon toute nouvelle. Alors, la blessure du cœur de Jésus, depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Et c'est bien tout comme tout l'enseignement de Jésus qui ne porte pas ses fruits. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors ça, c'est très fort. Il est l'envoyé du Père. Celui qui croit en lui, croit dans le Père. Celui qui croit dans le Père, croit en lui. C'est la même foi. C'est la même foi qui porte sur Jésus et qui porte sur le Père. Il n'y a pas deux fois différentes ou trois modalités de foi différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Notre foi est trinitaire, elle porte sur la très sainte Trinité, et elle porte sur la très sainte Trinité par la médiation de Jésus. C'est Jésus qui nous introduit dans la très sainte Trinité. Et c'est de cette manière-là que nous devons comprendre cette parole de Jésus, « Qui m'a vu a vu le Père ». Vous voyez, alors c'est beaucoup plus difficile ça. Quand il s'agit de la foi, on comprend qu'au niveau de la foi, croire dans le Christ, c'est croire dans le Père. Parce que la foi porte sur le mystère. Et que le mystère du Christ, le mystère de Jésus et le mystère de Père ne font qu'un. Le Père et moi, nous sommes un. Au niveau de la foi, c'est sûr. Et au fond, toute la foi chrétienne, c'est justement cela. C'est de comprendre que notre foi en Jésus regarde le Père, et que notre foi dans le Père regarde Jésus. C'est un. Mais Jésus parle ici non pas de la foi, mais qui me voit, voit le Père. Voir. Ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Voir le Christ, c'est voir l'humanité sainte de Jésus. Et qui me voit, voit le Père. Or, l'unité, c'est le Verbe. C'est sûr, ce n'est pas l'humanité. Et Jésus affirme avec force en face de Philippe qui lui demande de voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Alors, explication simple, hein, c'est de dire tout simplement que Jésus dit « voit celui qui croit ». Ça, c'est une explication, oui, c'est noyer le poisson, ça. Je ne crois pas qu'on puisse dire des choses comme ça. Parce que, on l'a vu précédemment, hein. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est là, je crois, ce qui doit nous donner l'explication. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, la connaissance, c'est le terme connaissance que Jésus emploie. Alors, le terme connaissance, on peut dire que celui qui connaît Jésus connaît le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Cette connaissance, c'est une connaissance de foi. C'est une connaissance amoureuse qui est une expérience. Si on connaît expérimentalement, mystiquement le Christ, on connaît le Père. L'expérience de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Cette expérience de Jean-Baptiste implique nécessairement une connaissance du Père. Puisque l'agneau, c'est celui qui est envoyé. Et que je ne peux pas connaître l'envoyé sans connaître celui par qui il est envoyé. Donc, cette expérience intérieure, dans la foi, mais qui est une expérience amoureuse, donc qui est une connaissance. Toute expérience est une connaissance. Donc cette expérience se fait à l'intérieur de la foi. Mais elle est autre chose que la foi. C'est une preuve de toute expérience mystique. Toute expérience mystique se fait à l'intérieur de la foi, mais est autre chose que la foi. Et cette expérience mystique ne supprime pas la foi. Au contraire, elle l'intensifie. Plus l'expérience est profonde du mystère du Christ ou du Père, plus nécessairement la foi dans le Christ et dans le Père est profonde. Parce que l'expérience est permis de l'éclore. Et la foi grandit dans la mesure où l'amour est plus grand. Donc vous voyez comment cette connaissance qu'on peut avoir de l'amour de Dieu permet de croire davantage dans le Père. Et de mieux connaître à travers justement. Celui qui est envoyé. Alors, si nous voyons cette manière-là, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire celui qui m'a expérimenté dans la première épître de Saint Jean au début. On voit que vivant expérience, celui qui m'a passé. Que voir, c'est expérimenté. Si j'ai envie de voir une personne, c'est expérimenté, c'est l'expérience. C'est celui qui m'a vu, qui a expérimenté ce que je fais. Lui qui m'a vu, qui m'a vu le Père. La connaissance, l'expérience, c'est toujours la sensation, et la sensation, je veux dire, et la vision, et la sensation la plus lumineuse, la plus parfaite. Nous pouvons comprendre de cette manière, et je crois que c'est la seule manière dont il faut comprendre. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. C'est un visage extérieur.
Sur la foi et ces diverses expressions sont là, et chaque fois c'est employé de façon extrêmement précise. Hein. Alors, je vous dis, en employant, on va répéter. Les Saint-Esprit n'aiment pas les répétitions, mais n'agit pas comme ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit avec une très grande netteté pour nous faire entrer dans ce point de vue de la foi, de la connaissance, de l'expérience de la vie. Vous voyez, je crois qu'on pourrait dire ça comme ça, vous voyez, pour qu'on comprenne bien, sans bouger le texte, hein, simplement en comprenant la puissance de cette affirmation qui est. C'est très fort, parce que Jésus veut réveiller en nous la foi. Elle est un peu endormie. C'est un peu endormie. À cause de la souffrance, à cause de la crainte, à cause de la peur. Alors la foi est un peu endormie. Jésus veut la réveiller. Et veut la réveiller en rappelant justement ce que représente le point de vue de l'expérience. Voilà. Nous avons la foi. Nous avons à l'intérieur de la foi la connaissance. Cette connaissance est ou une connaissance acquise. Alors, nous avons la théologie. À l'intérieur de la foi, il y a la connaissance acquise, qui est la théologie. À l'intérieur de la foi, il y a une connaissance infuse. Comprenez bien, ici, il s'agit d'une connaissance infuse. Il ne s'agit pas d'une connaissance acquise. Les apôtres ne sont pas des théologiens. C'est pas ça que Jésus leur a appris. Il leur a appris autre chose, il leur a appris une connaissance expérimentale du mystère de Dieu. Connaissance infuse. Quelle est cette connaissance infuse? Cette connaissance infuse ne peut être qu'une expérience. Une expérience mystique. Une expérience qui relève des dons du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. On expérimente le mystère de Jésus, le mystère du Verbe devenu chair. C'est une expérience. Cette expérience peut être une vision. Pas d'inconvénient. Parce que l'expérience fait appel au sens externe. Ça peut être un toucher. Quand il s'agit d'une expérience intérieure, on parlera de toucher. Quand il s'agit d'une expérience, d'une réalité qui est présente, on parlera de vision. Alors vous voyez que c'est extrêmement précis comme langage. Il s'agit de l'expérience que Jean, que Philippe a eue du Christ pendant ces 3 ans. Il a eu une expérience, comme Jean-Baptiste a eu une expérience au désert, du mystère de l'agneau. Et cette expérience est vraiment une vision. Il a vu Jésus. Mais ce n'est pas le visage de Jésus simplement comme le visage d'un homme. Il a vu le visage d'un Dieu dans le visage de Jésus. Et il a expérimenté cette présence de Jésus pour lui. Et en expérimentant cette présence de Jésus comme l'envoyé du Père, il a vu le Père. C'est très audacieux et c'est magnifique. Parce que ça fait bien comprendre comment, à l'intérieur de la foi, il y a une connaissance acquise, la connaissance de théologie, et puis il y a une connaissance infuse, qui est une expérience, et cette expérience, de fait, le privilège des apôtres, c'est bien le privilège des apôtres. Et donc il s'agit de caractériser ce privilège des apôtres, c'est une vision. Nous ne l'avons pas. Et c'est peut-être l'expérience, vous voyez, de ceux qui ont vu la Sainte Vierge, et disent « ont vu la Sainte Vierge ». Ils ont la touchée. Parce que quelquefois, la Très Sainte Vierge se laisse toucher, comme une mère, pour ne pas être trop loin. Alors elle vient tout près. Et alors c'est un toucher. Il y a la vision. Et on a vu la Sainte Vierge, on dira qu'on a vu la Sainte Vierge, à l'intérieur de la foi. Et la foi demeure. Celui qui voit la Sainte Vierge, ben, il garde la foi dans le mystère de Marie, et la voit. Et en voyant Marie, pourrait-il dire qu'il voit Jésus ? Non. Il ne peut pas dire ça. Tandis qu'il peut dire en voyant Jésus qu'il voit le Père. Parce que justement, il y a unité du mystère du Père et du Fils. Ils sont un Dieu. Tandis qu'il n'y a pas unité de personne et d'être entre Marie et Jésus. Il y a la créature et Dieu. Mais que la vision de Marie, que Marie nous a donnée, que cette vision que Marie nous a donnée, nous mette dans un état de disposition plus grande à vivre de la présence de Jésus, ça c'est sûr. Et vous voyez la petite Bernadette qui vivait du regard de Marie. Voir. Et Jean qui vit du regard de Jésus, parce que c'est bien le regard de Jésus. Voir. Dans l'Apocalypse, on voit très bien que c'est ce regard de Jésus qui impressionne et qui a toujours impressionné Jean. Et Jésus fait allusion à cette vision. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Alors voilà la foi. La foi, c'est que Jésus est dans le Père et que le Père est en Jésus, en son Fils. Les paroles que moi je vous ai dites, ce n'est pas de moi-même que je les ai dites. C'est le Père demeurant en moi qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je m'en vais, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres mêmes. Donc, vous voyez, et c'est aussi très, très intéressant de voir ça, cette expérience doit augmenter la foi. Et si cette expérience n'existe pas pour augmenter la foi, Jésus nous dit qu'il faut regarder les œuvres pour que la foi se révèle, donc pour que la foi s'intensifie. Donc vous avez les deux moyens pour intensifier la foi, les trois moyens, mais ça Jésus ne le dit pas. La foi acquise, la connaissance acquise de théologie, doit normalement intensifier notre foi. Quand les étudiants de théologie, au début de leurs études théologiques, ont plus de foi au terme de leurs études théologiques, ce qui arrive de temps en temps, hélas, ça prouve que la théologie est très mal enseignée. Ce qu'on voit, l'arbre a ses fruits. Normalement, la connaissance acquise théologique doit augmenter la foi. L'expérience mystique qui fait qu'on touche ou qu'on voit doit augmenter la foi. Et s'il n'y a pas cette expérience pour augmenter cette foi, alors regardons quelque chose d'extérieur. Connaissance des œuvres. désir vient souvent. La connaissance des autres qui donne un témoignage. Grâce aux œuvres, nous avons un témoignage, nous avons un effet, quelque chose qui nous conduit vers, mais c'est beaucoup moins direct, c'est sûr, extérieur à la personne. Tandis qu'au contraire, l'expérience et la connaissance acquise théologique, elle est à l'intérieur même de la foi. Croyez à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que moi je vais vers le Père. Ça, c'est aussi un de ces passages extrêmement difficiles, qui sont très beaux, mais extrêmement difficiles, mais très très grands. Celui qui croit en moi, une foi vivante, une foi aimante, lui aussi les œuvres que moi je fais, donc il fera les mêmes œuvres que le Christ. Si on a la foi dans le Christ, on est envoyé comme le Christ. Et donc on fait les mêmes œuvres que le Christ. Toute l'Église doit faire les mêmes œuvres que Jésus. Parce que l'Église est envoyée par le Père auprès des hommes comme Jésus. Donc il fait les mêmes, l'Église fait les mêmes œuvres. Envoyé comme prêtre, envoyé comme prophète, envoyé comme roi. Faire les mêmes œuvres que Jésus, ça se comprend, on est un instrument. Mais Jésus ajoute, il en fera de plus grandes parce que moi je vais vers le Père. Peut-on faire une œuvre plus grande que Jésus? Au point de vue intensité, non. Au point de vue extension, oui. Et c'est cela que Jésus veut nous faire comprendre. Au point de vue intensité, on ne peut pas. Au point de vue extension, oui. Parce qu'on pourra très bien faire d'autres œuvres et des œuvres plus grandes dans l'ordre de l'extension. Jésus n'a évangélisé qu'un tout petit coin de notre planète. Et Jésus demande à tous ses disciples d'évangéliser le monde entier. Donc ils font des œuvres plus grandes. Je crois qu'on pourrait dire aussi, c'est sous-jacent, mais ceci est propre à Jean. Donc ça nous intéresse. Les œuvres propres à Jean, c'est d'être le prêtre pour Marie. Or, la dernière étape de la vie de la Très Sainte Vierge, elle est réservée à Jean, elle est donnée à Jean. C'est Jean qui est présence auprès de Marie pour Jésus, de la part de Jésus, envoyé par Jésus et demeurant avec lui. Ah, vous voyez bien? Cette dernière étape de la vie de la Très Sainte Vierge, c'est l'étape la plus importante. C'est là où la croissance de la foi, de l'espérance et de l'amour en Marie, sa croissance de vie divine, a connu l'ultime épanouissement. Et cette croissance, elle est remise à Jean. Jean, en étant dépositaire divinement de la croissance dernière de la vie de foi, d'espérance et de Marie, va réaliser quelque chose de plus grand que ce qu'on a fait Jésus. Alors là, ce n'est pas seulement d'extension. C'est de l'extension aussi, mais il y a quelque chose qui touche le point de vue de l'intensité. Que ça a réalisé la dernière étape de la vie de la Très Sainte Vierge. Alors évidemment, c'est toujours par Jésus qu'il le fait, comme instrument du Christ, c'est bien évident, mais Jésus lui a réservé cela. Et ça fait partie de ces effacements merveilleux de Dieu. Jésus n'a pas voulu exercer une jalousie humaine sur Marie, comme font certains directeurs spirituels. Une jalousie sur Marie, c'est-à-dire, comme Marie est la créature la plus parfaite, il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre puisse continuer son œuvre auprès de Marie. Alors à ce moment-là, Marie serait partie au ciel avec Jésus. Et la dernière étape de la vie de la Très Sainte Vierge n'aurait pas existé. Mais Jésus fait juste l'inverse, parce qu'il a les mœurs de la Très Sainte Trinité, et il laisse passer devant celui qui vient après lui. Il laisse passer devant, en lui confiant Marie dans sa dernière étape, dans la dernière étape de sa vie. Or, la dernière étape de la vie de la Très Sainte Vierge, c'est quand même la partie la plus éminente de la vie de la Très Sainte Vierge. Donc vous voyez, c'est deux façons dont on peut essayer de comprendre cette affirmation de Jésus. Il en fera de plus grands, parce que moi, je vais vers le Père. Il y a une séparation à l'égard de Jésus qui se fait nécessairement parce que Jésus va vers le Père. Et cette séparation fait que Marie, alors, est donnée à Jean. Et que c'est Jean qui doit exercer auprès de Marie cette présence de Jésus. Et cette action particulière de Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père me soit glorifié dans le Fils, si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Donc ça, c'est le grand mystère, voyez, de l'intimité que Jésus veut établir entre les apôtres et lui. Et ce qui est vrai des apôtres est vrai proportionnellement pour nous. Il y a une intimité que Jésus veut établir de cette manière-là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Donc, les deux prières, la prière à l'égard du Père en passant par le Fils, la prière à l'égard du Fils, et toutes les deux sont exaucées. Ça, c'est le grand mystère de la prière et de l'efficacité de la prière. Et comment Jésus se porte garant de l'efficacité de la prière. On demande quelque chose en son nom. C'est tous les mérites de la croix qui nous permettent de demander quelque chose de la part de Jésus. Et qui donne alors une espèce d'ampleur, de grandeur à ce que Jésus dit ici. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements les miens. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous. Donc voilà le commencement du grand enseignement de Jésus sur le paraclet. Alors c'est très important de bien ponctuer tout ce passage pour essayer de se faire une théologie du paraclet. Et essayer de comprendre ce que doit être une théologie mystique du paraclet. Que je crois que ça c'est tellement important. Une théologie mystique du paraclet ne peut se faire qu'en revenant à ces textes de Saint Jean, puisque ces textes de Saint Jean sont ultimes quand il s'agit du mystère du paraclet. Je ne peux pas faire une théologie mystique du paraclet simplement en regardant ce que nous dit saint Thomas dans la Somme théologique ou dans le Contrat Gentiles. Non. Je ne peux faire une théologie mystique qu'en revenant sur l'Écriture telle qu'elle est gardée par le magistère. Alors essayons d'entrer dans ce grand mystère. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements, les miens. Donc de nouveau le lien entre l'amour et l'obéissance. On ne peut pas demander à quelqu'un d'observer les commandements s'il n'y a pas d'amour. Pas d'obéissance sans amour. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements, les miens. Et moi, je prierai le Père. Donc, voyez le contexte. Ça présuppose qu'on garde les commandements. Et ça présuppose un grand amour. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui prie. C'est Jésus qui demande. C'est Jésus dans sa fonction de médiateur à l'égard du paraclet. Parce que c'est cela que nous allons essayer de comprendre. Le sacerdoce de Jésus à l'égard de l'Esprit Saint. Quel est le lien? Parce que l'Esprit Saint est tout à fait extrinsèque au sacerdoce de Jésus. Ou est-ce qu'il y a un lien très particulier entre le sacerdoce de Jésus et l'Esprit Saint? Le sacerdoce de Jésus joue un rôle de médiateur. Je serai le médiateur, forcément. Il donne le mystère de la vie trinitaire. C'est le fruit du mystère de la rédemption. Quel est le lien entre le sacerdoce de Jésus et l'Esprit Saint? Première affirmation que nous devons retenir. Cette affirmation montre la médiation morale de Jésus, comme ça qu'on l'appelle. La prière, c'est une médiation. Médiation intentionnelle, ce serait peut-être mieux de dire ça, parce que morale, vous connaissez, mais on l'a appelé comme ça, c'est une médiation morale, pour distinguer la médiation morale de la distinction de la médiation physique. La médiation physique implique justement un contact plus immédiat. Alors, ici, il nous est bien montré cette médiation intentionnelle. Et moi, je prierai le Père. Prier le Père, demander au Père quelque chose, c'est un acte de fils, et comme il le demande pour nous, c'est un acte de médiateur. Le fils est plus proche du Père que nous, et nous servons Jésus pour demander au Père de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est le Père qui envoie l'Esprit Saint. Il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. Donc c'est le Père qui donne le paraclet. Le paraclet apparaît donc dans cette première affirmation au point de vue théologique. Le paraclet apparaît donc comme immédiatement relié au Père, comme le Fils est immédiatement relié au Père. Vous savez qu'avec toute la théologie orthodoxe, c'est extrêmement important d'être très attentif au texte de saint Jean. Parce que les orthodoxes écouteront encore saint Jean, mais n'écoute pas beaucoup les conclusions théologiques de saint Thomas. Il faut montrer que dit saint Thomas, bien pensé, mais c'est l'écriture. Selon un mode différent, mais c'est l'écriture. Il n'y a rien de plus. Et ici, il s'agit de bien comprendre comment le sacerdoce du Fils, le sacerdoce de Jésus, va permettre à l'homme d'invalider de recevoir pleinement l'Esprit Saint, il va s'y rendre par sa médiation morale, intentionnelle. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, les miens. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. Alors, première affirmation, il vous donnera, c'est le Père qui donne. Et donc, si le Père donne le paraclet, ceci prouve qu'il y a un lien direct entre le Père et le paraclet. Ça vous est révélé. Le Père vous donnera le paraclet. Alors, un autre paraclet, parce que le premier paraclet, c'est Jésus. Selon le langage de saint Jean, le premier paraclet, c'est Jésus. Vous voyez donc que le paraclet, c'est bien celui qui est l'envoyé du Père dans cette double fonction de celui qui est l'envoyé du Père au point de vue de la lumière, celui qui est envoyé du Père au niveau proprement affectif, l'amour. Le premier paraclet, c'est Jésus, c'est le Fils. Le second paraclet, c'est l'Esprit Saint. Alors, que veut dire paraclet? C'est un mot très difficile, vous le savez bien. Et c'est un mot qui est plein de significations. Et que les exégètes sont un peu gênés, parce que dans l'Ancien Testament, vous ne le trouvez pas. Et dans le Nouveau Testament, vous le trouvez dans saint Jean. C'est Jean qui seul appelle la troisième personne de la très sainte Trinité paraclet. Et c'est pour ça que tout de suite, il y a un autre paraclet pour être avec vous à jamais. Ah, c'est merveilleux. Jésus va s'absenter, il va partir. Il faut qu'il y ait une présence qui restera toujours. Et c'est la présence du paraclet. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure chez vous et qu'il sera en vous. On ne peut connaître le paraclet que de l'intérieur. On ne peut pas connaître le paraclet de l'extérieur. On ne peut le connaître de l'intérieur. Vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. C'est comme l'amour. Vous voyez, l'amour, on ne peut pas connaître l'amour de l'extérieur. On ne connaît l'amour que dans son jaillissement propre d'amour. C'est vrai, je ne peux pas mesurer l'amour. Je ne peux pas connaître l'amour de l'extérieur. Je verrai des manifestations, des petits signes, des paroles, mais c'est pas ça l'amour. L'amour n'est connu que de l'intérieur. Et le paraclet, comme il est l'amour, il est l'esprit d'amour. Il ne peut être, lui aussi, connu que de l'intérieur. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas le recevoir. Parce que le monde ne reçoit que ce qu'il connaît. Ou bien il ne reçoit que ce qui est en connaturalité avec sa propre évolution. Donc vous voyez, la première affirmation, elle est très très forte. Parce qu'elle montre que c'est le Père qui donne le paraclet pour combler un vide. Toute cette idée du vide, de l'absence de Jésus, l'avons déjà vu. Première façon de combler le vide, c'est la charité fraternelle. Seconde façon de combler le vide, c'est l'Esprit Saint qui demeure auprès de vous à jamais. Troisième façon de combler le vide, c'est le don de Dieu. Quatrième façon de combler le vide, Marie. Je crois que vous avez les quatre manières de combler ce vide de l'absence de Jésus. Et ceci est manifesté comme étant justement la raison pour laquelle l'Esprit Saint doit venir. Il doit venir pour être à présent à jamais. La plus grande sécurité de l'amour. L'amour, quand il est donné, ne peut pas être enlevé. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et l'amour, quand il est donné, ne peut pas être enlevé. Et donc, nécessairement, il est donné à jamais, pour toujours. Nous continuerons de voir cette grande théologie. C'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre et que quand vous ferez votre théologie sur l'Esprit Saint, vous puissiez revenir. Parce que c'est tellement important à ce grand texte de Saint Jean. C'est peut-être un des aspects les plus sublimes de tout l'évangile de Saint Jean. C'est sûrement, au point de vue de l'enseignement du Christ, la partie la plus prophétique et la plus divine de tout son enseignement.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres.